cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe, le 16 mai 2001 à Saint-Jodard.
Continuons à entrer de plus en plus dans ce problème de l'un et du multiple. Vous voyez que c'est très important, parce que la grâce présuppose la nature. Quand nous parlons de l'unité de l'Église, il y a toute une conception de l'un au plan philosophique qui est présente. Et très souvent, ceux qui parlent de l'unité de l'Église ne savent absolument pas ce que c'est que l'un. Philosophiquement, rien du tout. Alors on trouve la position de Platon, très nette. Ce serait très intéressant, du reste. Faites-le en nota bene, je ne le fais pas au coup, parce que je ne fais de la philosophie, mais en nota bene, vous devez faire ça. Les diverses conceptions de l'unité de l'Église. Très actuelle. Après la découverte de la substance ousia, on voit que la réalité substantielle est autonome dans son être et distingue des autres comme individu. Pas seulement comme individu, mais attention, par elle-même. La substance est principe. La substance est aussi source de toute détermination dans une réalité. Qu'est-ce que l'analyse de l'un ajoute à la connaissance de ce qui est en tant qu'être, au-delà de l'analyse de la substance et individu? C'est ce que nous cherchons. Qu'est-ce que ça ajoute? Il y a le langage, quand vous dites « ceci est un ». C'est curieux, dans le langage, il y a deux affirmations. C'est un petit signe. Ce n'est qu'un signe, mais c'est un signe. Parmi, vous voyez, toujours l'enquête précédente, parmi les transcendantaux, il y a l'un. Ça veut dire, mais il y a l'être, c'est suffisant. Et l'un transcendantal est convertible avec l'être. Donc, je vois bien qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Alors, je ne réponds pas toujours tout de suite, parce que c'est tout le cours. Tout le cours est fait pour dire qu'est-ce que c'est que l'un. Vous l'affirmez, et je prends tout de suite, c'est ce que j'ai pris tel point de départ, la position de Platon, où l'un est clé de voûte. Tout se ramène à l'un, pas à l'être. Ça peut arriver chez certains architectes. On le verra ensuite. L'un est primordial. Ça arrive très fort chez l'architecture, ça. Et on oublie complètement la finalité du monument. On ne regarde que la beauté. L'un. On est séduit par ça. Regardez constamment des choses comme ça dans les avions. Regarde l'unité au point de vue technique. Et c'est vrai, c'est un art moderne, les avions. Hein. Ça n'existait pas beaucoup avant. C'est comme un grand oiseau. Mais alors, l'unité de l'oiseau, l'unité de l'un et l'unité de l'avion, c'est pas la même chose, hein. Alors, donc, je ne réponds pas tout de suite, parce que si je réponds tout de suite, c'est tout le cours. Et je ne veux pas répondre tout de suite, nous cherchons. Alors, c'est très bien de se poser la question. Et c'est très vrai, quand vous avez la substance, c'est un principe. Est-ce qu'un principe n'est pas toujours un ? Mais oui, il est un principe. Et je peux donc dire qu'il y a l'unité. Je le dis d'abord, et on le verra ensuite. Il y a l'unité de l'être par la substance, il y a l'unité de l'être par l'acte. Tiens, deux unités. Ils ne sont pas les mêmes. Alors, est-ce qu'il y a une troisième unité qui est l'être ? Ah, tiens. Parce que l'unité ne peut pas être deux. L'unité, par définition, est un. Alors, si vous avez l'un de la substance, vous avez l'un de l'acte. Ah, et il y a l'un de l'être. Ah, c'est vrai. Alors, c'est un super un. Vous pouvez vous poser cette question-là. C'est vrai, c'est un super un. Et Platon fait le super un. Vous avez l'unité de la substance, vous avez dit l'individu, oui. L'unité de la substance dans l'individu est une unité très spéciale, hein, parce que nous avons tous l'unité individuelle de la matière, hein, même si nous sommes complètement idiots. On a l'unité de la matière, c'est sûr. On est gros, grand. L'unité particulière, la perche. L'unité gros. Il est tout rond. C'est encore une idée. C'est une deux unités très différentes, l'unité de la flèche et l'unité de celui qui est tout rond. Il est très assis. Tellement assis qu'on ne peut pas le bouger. Donc, vous voyez, toutes ces unités. Et est-ce qu'il n'y a pas une unité particulière pour l'être ? Alors, c'est l'unité de l'unité. Vous avez l'unité de l'intelligence, vous avez l'unité de l'amour. On va voir tout ça. Bon, donc, c'est bien de se poser la question. L'unité individuelle est une unité qui vient par le bas de la matière. N'est pas l'unité de l'être. Il y a des individus, ils sont vraiment des individus, et aucune unité personnelle. Aucune. Ils n'ont qu'un seul souci, c'est d'être rond. Ça peut exister, ça. Si l'un est propriété de l'être, et que l'être existant ne peut pas être en contradiction de l'intelligence. Pardon. En continuation de l'intelligence, pardon, pardon. Et que l'être est une construction de l'intelligence. Je ne comprends pas comment l'un peut être une construction de l'intelligence. Oui, construction de l'intelligence, c'est-à-dire vision de l'intelligence. C'est justement la question se pose. Hein. L'un de Platon, l'un de la réalité. Peut-on dire que pour Platon, l'un s'identifie à l'être, ou bien dépasse-t-il l'être ? Comment ? Pour Platon, l'un est au-dessus de l'être. Et l'être est inférieur ou bien inférieur à l'un. Donc, vous avez l'un et le bien, qui sont les deux absolus. est au-dessus de l'être. Que le bien soit au-dessus de l'être, on voit très bien. L'être n'est peut-être pas toujours bon, c'est pour ça qu'on dit ça. Il y a des êtres mauvais et des êtres bons. Donc la bonté est comme au-dessus de l'être. Et la bonté est l'un comme au-dessus de l'être. Alors pour Platon, c'est l'être. Pour Aristote, au contraire, l'être est avant l'un. Alors, comment se fait-il qu'on peut mettre l'un au-dessus de l'être? C'est ça qu'il faut chercher, puisque ça existe chez Platon. Il faut essayer de comprendre comment cela peut arriver et comment, en réalité, l'être est avant l'un, plus profond. Donc, je reste toujours dans ma question. La question de l'un n'est-elle pas en théologie scientifique, lorsqu'on veut préciser la manière d'être de Dieu, l'unicité de Dieu? C'est sûr, la question de l'un existe en théologie. Dans ce cas, peut-on dire que les philosophes qui insistent sur l'un sont influencés par les traditions religieuses judéo-chrétiennes? Oui, c'est sûr, ils ont été influencés par là. Il y a une tradition de l'unité de Dieu, du monothéisme, qui est très forte. Le monothéisme qualifie une tradition religieuse de mettre Dieu est nécessairement un. Et la difficulté alors d'accepter que Dieu soit trine. Et toutes les conceptions multiples qu'il peut y avoir sur cette trinité qu'on essaie de représenter. Et chaque fois qu'on essaie de représenter la très sainte Trinité, où on représente les trois différents, alors où est l'unité? Où on représente l'unité et les trois comme accidentels? Vous ne pouvez pas représenter. Vous ne pouvez pas représenter la très sainte Trinité. Mais vous pouvez, en quelque sorte, suggérer par des effets. Mais vous touchez le mystère, et qui vraiment est un mystère absolu. Je n'ai aucune conception du trine, concept. Je peux avoir une affirmation de foi, mais je vois que ça me dépasse complètement. Et c'est vrai que ça me dépasse complètement. Et si je veux, à partir de la très sainte Trinité, avoir une nouvelle métaphysique, ça ne va pas du tout. La métaphysique chrétienne, hein, si elle existait, hein, la métaphysique chrétienne, si elle existait, ce serait une métaphysique de la très sainte Trinité. Que l'être de Dieu est trois et un. Et là, je vois que je n'ai pas de métaphysique de la très sainte Trinité. Je ne peux pas. Vous voyez, on va toucher très fort le mystère de l'unité de Dieu, quand en philosophie ou en métaphysique chrétienne, je peux atteindre la simplicité de Dieu, premier attribut de Dieu, la simplicité de Dieu. Là, mon intelligence est assez à l'aise. Dieu est absolument simple. Je peux le dire au plan philosophique. Je peux le dire au plan théologique. Dieu est absolument simple. Mais dire que dans cette simplicité, il y a les trois personnes, seule la foi. Et je ne peux pas le concevoir. Je peux l'affirmer au point de vue de la foi, mais je ne peux pas le concevoir. Je dis, c'est comme ça. Donc, oui, alors, toutes ces questions, c'est très bien pour voir qu'il y a une grosse question qui se pose. Hein. C'est, en réfléchissant sur Platon et sur Aristote, on voit qu'il y a une grande question qui se pose. Et ça a été dans la grande montée grecque de la philosophie, cette grande montée pour Aristée, pour arriver à ces deux géants, Platon et Aristote, je vois que Platon et Aristote diffèrent sur les rapports être et un. C'est intéressant de voir que deux génies aussi merveilleux que Platon et Aristote diffèrent sur la manière de concevoir l'un. Et ce qui vous permet, nous qui sommes moins géniaux que Platon et Aristote, d'avoir des conceptions différentes, vous voyez, puisque au sommet, il y a des conceptions tout à fait différentes. Et c'est vrai, les deux philosophies, ces deux philosophies diffèrent sur beaucoup de points, mais c'est sur l'être et l'un que la différence est la plus manifeste. Parce que c'est le sommet. Pour Aristote, tout revient à l'être. Pour Platon, tout revient à l'un, le Parménide. Relisez le Parménide. Spéculation sur l'un, c'est important. Et notez tout ce qui est dit sur l'un. Aristote n'a pas fait de livre sur l'un. Il en a fait un sur l'être, la métaphysique, la connaissance du toon et on, ce qui est en tant qu'il est. Il n'a pas fait un livre sur ce qui est un en tant qu'il est un, tandis que Platon en a fait un. C'est aussi très intéressant, ça, de voir qu'Aristote n'a pas eu le besoin de faire une spéculation spéciale sur l'un. Il a fait un livre sur l'un. L'un est multiple, oui, iota. L'un est multiple, mais à l'intérieur de la spéculation sur l'être. Tandis que Platon a fait une spéculation sur l'un, pris en lui-même. Le Parménide. Un livre très, très important chez Platon. Un livre difficile, c'est pour ça que souvent on le laisse tomber, alors que c'est un livre extrêmement intéressant. Si on avait le temps, on ferait un séminaire sur le Parménide de Platon. Et ce séminaire sur le Parménide de Platon nous aiderait énormément à comprendre ce qu'il ne faut pas faire et par le fait même la position d'Aristote. Parce que la position du Parménide de Platon, il faut avoir lu le Parménide de Platon dans ses études philosophiques, hein. C'est sûr. Et ne pas le lire comme un roman. Parce que rien de moins que roman que le Parménide de Platon. Hein. C'est la dialectique. continuons. Quand nous voyons des philosophes aussi importants que Platon et Aristote, et de voir qu'ils sont vis-à-vis de l'un en position de contradiction, ça nous montre combien facilement on peut dévier, et combien c'est difficile de saisir vraiment ce qu'il a, de saisir dans toute sa pureté. On comprend que l'un, d'une certaine manière, a une connaturalité. Et c'est ça qui serait très intéressant à étudier au terme, on essaiera de le voir, a une connaturalité avec notre intelligence plus grande que l'être. D'une certaine manière, Platon. Et l'autre position, l'être a une connaturalité plus grande avec notre intelligence. Notre intelligence est plus proche de l'être que de l'un. Notre intelligence est plus proche de l'un que de l'être. Posez la question comme ça et ruminez ça pour que vraiment vous arriviez par vous-même, par votre propre réflexion, vous arriviez à pouvoir répondre à cette question. Est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'être qui est le plus en connaturalité avec notre intelligence? Il faut reprendre le problème à sa base, à l'expérience. Première expérience de l'un. C'est dans la philosophie de l'art. La philosophie du travail. L'un est là, très proche de notre intelligence fabricatrice. Toute œuvre faite par l'homme a une certaine unité dans la diversité. Prenez dans une œuvre architecturale l'unité, c'est capital. Hein. Et vous verrez tout de suite dans un bâtiment, il manque d'unité, il manque d'harmonie, vous direz. C'est, l'harmonie nous conduit à l'unité. C'est très curieux au point de vue artistique. C'est par l'harmonie, et c'est au fond très, très normal, l'harmonie c'est le jeu des relations. Et le jeu des relations qui ne se heurte pas et qui s'appelle. Une relation appelle une autre relation et ce ne sont pas deux types de relations en opposition. Et ayez devant les yeux, dans votre tête, une œuvre artistique au point de vue proprement architectural, et voyez l'harmonie. Et vous pouvez avoir aussi devant les yeux une œuvre architecturale où il n'y a pas d'harmonie. Les grandes œuvres artistiques, au point de vue architectural, toujours là, l'harmonie, l'unité. C'est curieux, la voie par laquelle on découvre l'unité, l'harmonie. Parce que l'unité, au point de vue architectural, est nécessairement au-delà de la complexité. La complexité existe nécessairement dans toute œuvre d'art humaine. Parce que toute œuvre d'art humaine emploie la matière. Toujours. Une matière spirituelle, quand il s'agit par exemple du poète, la matière du langage. Mais on emploie toujours une très grande diversité. Et l'originalité et en même temps la beauté provient de la tension extrême qu'il existe dans l'œuvre et au-delà de cette tension, une harmonie. S'il n'y a pas cette tension, vous ferez une œuvre banale qui n'intéressera pas. Ce qui intéresse, c'est lorsque justement on est en face de choses qui ordinairement sont diverses et séparées et qui, dans l'œuvre artistique, cette diversité est dépassée par une harmonie. Et l'harmonie, quand elle est très forte, très puissante, exige des positions très diverses, qui ordinairement sont séparées et on les unit. Et vous trouvez la même chose, du reste, du côté peinture, du côté couleur, c'est différent. Mais au fond, toute œuvre d'art, la première chose qu'on peut critiquer dans une œuvre d'art, l'œuvre faite par l'homme, c'est qu'il manque d'unité. On n'est pas arrivé à dominer la diversité. Et on est resté dans la diversité. Et si on est resté dans la diversité, on sent que l'œuvre n'est pas parfaite. Elle sera parfaite si elle arrive à l'unité. Donc, posez-vous la question, unité et harmonie. Unité, harmonie. Harmonie implique une diversité qui est dépassée. Dans l'harmonie des contraires. Et ce dépassement va nous donner une unité. Et c'est le premier type d'unité que nous pouvons expérimenter. Cette unité n'est pas la matière, elle est réalisée par l'homme. Cette unité, elle est dans la pensée de l'artiste. L'artiste ne s'arrête jamais avant d'avoir conçu, ainsi, dans l'inspiration, ce nouveau type d'unité. Il y a quelque chose qui lui a permis de dépasser la diversité et d'arriver à l'unité. Nous vivons ici dans une salle qui a été faite par un architecte Et il avait une très grande diversité. Le danger, c'était vrai, c'est d'avoir comme une espèce de prolongement inharmonieux dans ce qui existait avant. Alors, il y aurait eu un collage de choses qui, tout à fait diverses, qui viennent se coller l'une à l'autre, sans aucune harmonie. Le côté intéressant a été de découvrir comment unir ces deux aspects. On pouvait les unir de diverses façons. Et il y a eu un moyen de le faire. Et en même temps, il y a une unité dans la diversité. Et l'architecte a dû avoir une unité dans la pensée, dans son idéal, et puis la réaliser. C'est important de saisir ça, l'unité dans l'œuvre d'art, surtout dans l'architecture, surtout parce que l'architecture, pour les Grecs, c'était l'art des arts. Donc c'est là où on trouve le mieux le point de vue de l'unité. Et au contraire, quelque chose qui n'est pas réussi, c'est boiteux. Et ça reste dans la diversité. Par l'unité, il y a un dépassement de la matière. Vous voyez, une œuvre une dépasse la qualité de la matière des éléments faits. Tandis qu'une œuvre qui n'est pas une laisse très en lumière la diversité des matériaux. C'est très curieux, ces choses-là. Il y a dans l'unité réalisée une espèce de puissance qui fait qu'il y a un dépassement de la matière. On ne s'arrête pas à la qualité de la matière, on voit l'unité de l'œuvre. Tandis que quand on n'y a pas cette unité, on dira oh, telle partie aussi. La qualité là des parties est beaucoup plus, et la qualité des parties se voit par les matières, surtout par la diversité. Alors, c'est la lutte entre la multiplicité et l'unité. Et on voit très bien que l'un et un dépassement par rapport au multiple. Et le multiple est lié à la matière, à la qualité diverse des matières, la diversité des matières. Dans le grand art, on prendra des matières extrêmement différentes qui pourtant s'unissent en l'unité. Il y aura exprès cette espèce de coquetterie de mettre des matières différentes, de qualités différentes, qui attirent l'attention et qui sont dépassées par l'unité. Autrement dit, l'intelligence ne se repose pas sur la multiplicité, l'intelligence cherche tout de suite à saisir cette unité. Et c'est le dépassement des parties, c'est le dépassement de la diversité pour entrer par l'harmonie dans l'unité. L'harmonie est nécessaire pour passer de la diversité à l'unité. Une harmonie qui se fait à l'intérieur des parties, c'est pas encore l'unité. L'harmonie n'est pas l'unité. Il peut y avoir une harmonie et pas d'unité. Alors il y a des harmonies très fortes dans les parties, mais il n'y a pas d'unité. Ce que vous voyez dans l'architecture, vous le voyez dans tous les autres arts. Mais c'est évidemment dans l'art architectural que l'unité est la plus forte, la plus visible, la plus manifeste. C'est aussi très intéressant, ça. Dans le champ des divers arts, c'est l'architecture qui est l'art le plus parfait, ultime, qui en quelque sorte unit les autres, que l'unité est la plus exigée, la principale. Dans l'architecture, une difficulté très particulière, c'est cette diversité des matériaux qui doit être dépassée. Dans les autres arts, on trouve beaucoup moins de diversité des matériaux. Et c'est peut-être cela qui fait à l'architecture sa qualité dominante. Première expérience, l'unité de l'œuvre artistique et l'harmonie. Deuxième expérience, l'unité dans notre vie humaine. L'unité dans notre personne humaine. L'unité dans notre vie morale. Je prends pas la vie chrétienne, hein. Je prends exprès la vie humaine. On peut avoir une très grande diversité dans notre vie humaine, dans notre vie morale. Une très grande diversité. Unir en nous, dans nos activités, le travail. Parce que la vie humaine implique le travail. Quelqu'un qui n'a absolument aucun travail, je crois que sa vie humaine est toujours bancale. Le travail nous aide beaucoup à unifier. C'est pour ça qu'il ne faut jamais l'abandonner. Il faut toujours avoir un travail intellectuel, un livre qu'on lit, qu'on travaille, un travail matériel. Couper complètement du travail, c'est toujours quelque chose de très rude. Il faut vite retrouver quelque chose. Parce que quand il n'y a pas le travail, l'imagination bat la campagne. Et là, l'imagination, c'est juste l'inverse de l'unité. Vous avez toujours fait cette expérience. Si vous ne l'avez pas faite, vous la ferez. C'est que l'imaginaire vous fait voyager beaucoup. Dans tous les sens. Vous baladez. À travers votre corps, à travers le monde. Le travail maintient l'unité de nos énergies sur un point fixe. Mais ce n'est pas suffisant. La dernière unité, l'unité principale pour nous, ce sera la finalité. C'est la finalité qui permet à l'homme de découvrir une unité dans sa vie, dans sa vie humaine. Le côté moral, le côté technique, le côté amical, le côté artistique, tout cela fait partie de notre vie, aux diverses occupations de la journée, les repas, la rencontre avec les amis, le travail, la prière. Qu'est-ce qui fait l'unité de toute cette diversité d'opérations et qui respecte leur caractère propre? Autre chose, l'unité dans mon travail intellectuel. Autre chose, l'unité dans la charité fraternelle. Autre chose, l'unité dans la prière. Qu'est-ce qui va respecter cette diversité sans chercher nécessairement une harmonie? C'est là la très grosse différence de l'unité de la personne humaine dans ma vie morale, dans ma vie humaine, et l'unité au point de vue du fait chéré pour l'homme. La diversité, je ne dis pas l'harmonie de ces diverses occupations, la diversité de ces diverses occupations, je les respecte dans l'unité de ma vie. Celui qui ne les respecte pas ne pourra jamais trouver d'unité. C'est très curieux. Il y a des personnes qui cherchent à harmoniser la diversité de leur opération. Et c'est une erreur. Il faut accepter la diversité qui s'impose et qui n'implique pas d'harmonie. Il y a une diversité très grande entre ce que représente un travail intellectuel et puis la charité fraternelle. Si vous voulez fusionner en disant « ma charité fraternelle, je veux en faire un travail intellectuel », alors vous verrez la catastrophe. Ben, c'est autre chose. Il n'y a pas d'unité. Et pourtant, vous devez maintenir cette diversité. Quelqu'un qui ne voit pas la diversité entre travail intellectuel ou un travail de cuisinier, puisque ça peut se rencontrer. Mais le travail du cuisinier est autre chose que le travail intellectuel. Il y a des gens qui mettent une sauce intellectuelle. Alors, c'est la rhétorique. La rhétorique, c'est la sauce intellectuelle. Alors, par la rhétorique, on unit tout. Mais on ne voit rien. Vous savez, c'est comme quand il y a trop de sauce, on cache tout. Les tout petits morceaux de viande sont cachés par une grosse sauce. Et c'est la même chose intellectuellement. C'est la rhétorique. Et il y a des gens qui restent perpétuellement dans la rhétorique. Alors, c'est de la vaseline. La vaseline intellectuelle, vous voyez. On ne sait pas où ils sont. Sont-ils au point de vue surnaturel? Sont-ils au point de vue naturel? Tout est mélangé. C'est l'inverse de l'unité de la sagesse, qui respecte la diversité. Dans un travail humain, on respecte la diversité. Autre chose, aimer mes frères, être à leur service. Autre chose, mon travail intellectuel. Je veux dire, je vais tout mêler, je vais mettre mon travail intellectuel avec quelqu'un d'autre en même temps, j'accomplirai une charité fraternelle vis-à-vis de lui, et je travaillerai avec lui, parce que quand je le vois, je perds du temps, et le travail intellectuel ne se fait pas, alors si on fait ça, intellectuel à deux, non, c'est très rare qu'un travail intellectuel sérieux se fasse à plusieurs. Après qu'on a fait le sérieux, on peut s'unir. Mais ça dépend des personnes. Hein. Mais le travail intellectuel, de l'intelligence qui va aller jusqu'au bout, sérieux, demande la solitude, qu'on soit seul. Mais après, on peut le communiquer aux autres. Et en le communiquant aux autres, on s'enrichit de son point de vue. L'unité artistique se fait par l'harmonie. L'unité intellectuelle se fait par la finalité. Et la finalité respecte tous les moyens multiples et divers et respecte leur caractère propre, le point de vue technique spécial, leur spécificité, si on parle avec plus de précision. Le travail intellectuel me mobilise autrement que la cuisine. C'est sûr. Si vous restez trop dans votre travail intellectuel pour la cuisine, vous ferez une cuisine d'intellectuel. Et ça se voit tout de suite. Et c'est la même chose pour toutes les occupations. Alors, c'est curieux comment la fin peut réaliser une unité d'un type tout à fait différent que l'art. Saint Thomas a une expression très nette pour nous rappeler ça. Il montre les voies déterminées de l'art et les voies indéterminées de la prudence. Si j'étudie bien cela, je vois que c'est en effet c'est l'unité de l'œuvre artistique est d'un type tout à fait différent de l'unité morale, l'unité de ma vie. Or, je suis heureux quand il y a une certaine unité dans ma vie. Quand il n'y a pas d'unité du tout dans ma vie, je suis tiraillé. C'est très curieux. Et l'unité de ma vie, elle va se faire par le point de vue de la finalité qui est de plus en plus présent dans mes diverses occupations. Mes diverses occupations trouvent leur unité par la finalité, et la finalité est de plus en plus présente. C'est ce que saint Thomas dit à sa manière, quand il dit que la charité est la forme de toutes les vertus. La charité ne remplace pas toutes les vertus. Je suis en colère charitablement. C'est une manière de s'excuser. La colère n'est pas la charité. La violence n'est pas la charité. Alors, c'est autre chose. Je respecte cela. Je ne suis pas entièrement finalisé. La preuve, c'est que j'ai des moments de colère. Et ces moments de colère ne sont pas par eux-mêmes directement finalisés. C'est vrai. Et je dirais la même chose pour le concupiscible. La jouissance du concupiscible n'est pas immédiatement finalisée. Elle reste quelque chose qui s'impose. Vous voyez, au fond, je mets beaucoup plus longtemps à arriver à l'unité de ma vie. Et même, je peux très bien y arriver que très difficilement, et ne pas y arriver, mais 8 ans, par la finalité, par l'amour. La finalité, c'est l'amour. Hein. C'est parce que j'aime Dieu, j'aime mon ami, que ma vie s'unifie. C'est grâce à l'amour. Et ma vie s'unifie dans l'amour, et à partir de l'amour. Et l'amour respecte les diversités. Je ne fais pas d'harmonie. Non, je sais que je ne peux pas en faire. Et c'est pour ça que je suis tout entier au travail qu'on me donne. Et je suis tout entier à ce travail. Et je suis tout entier de façon diverse. Donc, vous avez 2 types d'unités que vous pouvez expérimenter et qui sont tout à fait diverses. Je dirais, l'unité qui vient de la cause exemplaire et l'unité qui vient de la finalité. Y a-t-il un troisième type d'unité que je peux... Au point de vue politique, y a-t-il une unité dans la vie politique qui est un mélange hein, d'art et de morale? Ça, c'est sûr, je ne peux pas être un homme politique sans moralité. Autrement, j'aboutis à une politique qui n'est plus humaine. Et je ne peux pas être un homme politique sans un certain art. Alors, y a-t-il une unité dans la vie politique ?